Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Droit et citoyenneté parle de la problématique de la gouvernance participative avec focus sur les travaux parlementaires. Quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée, participation des habitants ou des usagers, l'idée de l'intervention directe des citoyens dans le champ de la décision politique s'impose de plus en plus. La nécessité de développer la démocratie participative pour contrôler et corriger les errances de la démocratie représentative était d'ailleurs déjà signalée avec force dès les années 1959-1960. La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans l'urne et à déléguer le pouvoir à un élu, puis à se taire pendant 5 ou 7 ans. Elle est action continuelle des citoyens, non seulement sur les affaires de l'État, mais sur celles de la commune et autres groupes. Si cette présence vigilante n'est pas assurée, les gouvernements cèdent aux tentations de l'arbitraire. Comment rendre effective la participation citoyenne dans les prises de décisions de ses représentants? Quelle est la redevabilité de ces élus et pourquoi? Le magazine de promotion de vos droits et devoirs tente de répondre à cette problématique avec les parlementaires et le bureau de liaison de la CINCO avec le Parlement, BLP. L'émission est coordonnée et présentée par Jeff Ngoyi Mulonda sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele. Bienvenue à tous. La session de la gouvernance participative fait l'objet d'une session organisée par le bureau de liaison de la CINCO avec le Parlement, BLP, axée sur l'appropriation du projet de recyclage en outil participatif des travaux parlementaires. Cette session vise à renforcer la démocratie et contribuer au respect des droits humains par une participation citoyenne. Nous vous laissons suivre l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la CINCO, qui explique le projet et les objectifs poursuivis par cette session.
L'ouverture de la session d'appropriation du projet de recyclage en outils citoyens participatifs et de capacitation des moniteurs des travaux parlementaires. Votre présence est une indication pour nous de la détermination à prendre en compte les aspirations légitimes de la population par ces élus pour un service réel de la nation. Nous vous sommes très reconnaissants de figurer au nombre de soutiens très probables à ce projet de la CINCO qui, de manière globale, vise à contribuer au renforcement de la démocratie et au respect des droits humains en République démocratique du Congo à travers les législations adoptées et les décisions prises en faveur de la population. Spécifiquement, le projet soutiendra les efforts du bureau de liaison avec le Parlement, BLP, relayé dans cette phase pilote en province par trois cellules de liaison parlementaire provinciale, CLPP, notamment celle de Kinshasa, du Kwangu et du Congo central. Au terme du projet, le rêve osé est d'avoir l'existence d'un réseau national opérationnel avec des liens forts de représentation de la population au niveau provincial, local et communautaires, intégrant le BLP et d'autres dynamiques sociales. L'élaboration par le BLP et ses alliés d'une avant-proposition de loi ou d'une proposition d'amendement du cadre légal de jouissance des droits de l'homme actuel, dont ils assurent le suivi auprès du Parlement national en vue de son adoption. L'interaction positive entre le BLP et les trois CLPP et d'autres dynamiques sociales avec les élus et les autorités au niveau national et provincial à travers un réseau efficace de promotion de la transparence, de la redevabilité et de la gouvernance participative. Avant la mise en œuvre effective des activités du projet, appui à la consolidation de la démocratie et au respect des droits humains en faveur de la population congolaise, le BLP a jugé opportun de renforcer les capacités de ses agents, des animateurs des CLPP visés ainsi que des organisations partenaires à travers des sessions ainsi que d'appropriation du projet de recyclage en outils citoyens participatifs. participatif et de capacitation des moniteurs des travaux parlementaires. À l'issue de cette première rencontre formative, le BLP-SENCO espère voir éclore dans le chef de ses agents de ceux des trois CLPP ciblés et des structures partenaires analogues, tant de la SENCO que de la société civile, une appropriation certaine du projet triennal 2019-2022 du BLP-SENCO axé sur la consolidation de la démocratie et le respect des droits humains. Un renforcement des capacités pour pouvoir à leur tour outiller les structures de participation et de co-responsabilité à la base CLGP et OSC. Une identification de meilleures stratégies d'organisation et d'action synergique. Nous savons que grâce à vous, le travail d'appui à la consolidation de la démocratie et au respect des droits humains en faveur de la population congolaise gagne du terrain un peu plus chaque jour. Je souhaite le courage et la solidité aux apprenants qui sont des vecteurs agents de terrain afin de parvenir aux résultats escomptés et cela sans oublier les facilitateurs de cette session qui vont partager leurs connaissances en vue de contribuer à hâter le changement tant attendu d'un Congo nouveau.
La pratique de la gouvernance participative à la base. Encore une fois, on écoute Donatien Cholet.
Nous avons déjà la pratique ici d'organiser des tribunes d'expression populaire avec la base pour écouter leurs attentes. On invite aussi les députés dans un dialogue. On organise un dialogue entre les élus et la base pour que les élus aient l'occasion de bien comprendre les attentes et aussi enlever les illusions parce que souvent, on attend des députés ce que le député ne doit pas faire. C'est comme si le député était là pour distribuer du sel et du savon alors qu'il y a un travail beaucoup plus important qu'ils attendent.
Le bureau de liaison de la SENCO avec le Parlement dispose de quel levier pour influencer les travaux parlementaires? Abin Chole échange avec les élus.
L'idéal serait un accès physique. On négocie. Bon, maintenant, on attend encore le gouvernement. Mais au gouvernement passé, on était sur le point d'y arriver. Mais malheureusement, celui qui était le ministre d'État chargé avec le Parlement, quand il a pris une position politique, les choses étaient devenues un peu compliquées. L'idéal pour nous, c'est d'avoir l'autorisation du gouvernement et plutôt par le gouvernement, l'autorisation du Parlement pour que quelques-uns des BLP puissent assister au débat, même sans participer. Mais le plus important pour nous, c'est vous qui êtes ici, les députés nationaux, à qui nous pouvons suggérer les idées et que eux peuvent défendre au niveau du Parlement, les convaincre de bien fonder de ces idées pour le bien de la population et de vendre ces idées-là auprès de quelques élus pour qu'ils défendent. Je donnerai un exemple. Il y a quelques années, une assemblée, je crois, de parlementaires de l'Afrique, de pays pacifiques, devait se réunir. Et là-dedans, il y avait un projet de loi qui allait ouvrir la porte à l'homosexualité. Et on a été informé, on a fait ce lobbying-là, et ça marchait. Donc, c'est pas, je ne dis pas le contenu, hein, mais on ne voulait pas, par rapport à notre contexte culturel, qu'on puisse légaliser cette pratique qui allait frustrer la population. C'est juste un exemple comment on a procédé par un lobbying de porte à porte au niveau de quelques parlementaires qui ont compris et qui ont fait la faire quoi. Ben, est-ce que ce serait réaliste de compter sur les subventions de l'État que du gouvernement que nous voulons contrôler? Mais là où les gens sont convaincus de la démocratie, on ne doit pas avoir peur du contrôle. Bien au contraire, on doit favoriser ce contrôle-là pour que soi-même on travaille bien. Mais je suis d'accord que bien que nous portons le nom de République démocratique, hein, moi généralement quand je me présente, jusqu'il y a quelque temps, je disais, je suis de la République dite démocratique du Congo. Alors j'espère que demain, avec le nouveau parlementaire, je pourrai dire nous sommes membres, je suis de la République démocratique du Congo. Et je suis content de l'exhortation à former particulièrement les députés provinciaux, aussi nationaux, sur les édits de loi. Et ça, c'est important. Pourquoi ne pas leur suggérer, c'est aussi le travail, notre mission, suggérer aux élus les projets de loi qui peuvent faire avancer les choses pour que la population se retrouve mieux.
Quid du BLP avec son directeur, Maître Jean-Paul Mouliangwa.
Ce bureau, en un mot, c'est la cellule technique du plaidoyer parlementaire de la SENCO. Elle est dirigée par un directeur et placée sous la supervision du secrétariat général de la SENCO. Donc, elle permet à l'Église d'assurer une cohésion interne des différents services par rapport au thème des plaidoyers. Vous savez que l'Église agit non seulement dans l'aspect spirituel, mais aussi dans l'aspect social. Nous avons des écoles, nous avons des centres de santé. L'Église est dans la santé, dans l'éducation et tout. Et par là, l'Église promouvoit des lois justes dans ces domaines pour le bien de la population. Alors, elle a créé ces bureaux pour faire une sorte d'harmonisation entre les différents services qui sont chargés de ces questions-là au sein de l'Église, mais aussi avec les autres. On appelle ça synergie interne et aussi avec l'extérieur. Vous avez vu ce qu'il y a d'associations qui sont venues et aussi de suivre les travaux du Parlement, d'assurer un monitoring, une évaluation et d'apporter les résultats de ces travaux nourrissent les dossiers de plaidoyer des évêques de la SENCO.
Que comptez-vous faire à l'issue de cette session? Vous vous attendez à quel type de résultats?
C'est une session de lancement d'activité du projet appris à la consolidation de la démocratie et au respect des droits de l'homme en faveur de la population congolaise qui va débuter. On ne va pas les débuter comme ça en désordre. On doit capaciter les animateurs de ces projets. Et ils viennent essentiellement du Congo central, du Kwango, donc des provinces limitrophes, ici de la ville province de Kinshasa. Nous, et ceux-mêmes du BLP et d'autres alliés de la société civile et quelques parlementaires, nous capacitons en termes de connaissances sur les outils même de la participation citoyenne.
Vous faites un renforcement des capacités.
Voilà. Et aussi en termes de techniques pour bien suivre les travaux du Parlement, bien suivre et bien rapporter. C'est ça qui conduit cette session qui va s'étaler sur toute une semaine.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
La gouvernance participative, cas des travaux parlementaires, nous en parlons dans votre magazine de promotion de vos droits et devoirs. Et nous recevons à présent le député national Juvenal Munobo. Il nous dit de quelle manière on peut rendre effective la participation citoyenne et les raisons du faible contrôle parlementaire non assorti des sanctions.
D'abord, nous sommes ici dans le cadre de ce qu'on appelle le bureau des liaisons de l'Église catholique, de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui est en fait une initiative qui consiste à rapprocher les élus de la population, quoi, organisée. Au sein de la société civile. Alors c'est ce lien-là, c'est ce pont, c'est cette passerelle que fait l'Église à travers le bureau des liaisons avec le Parlement. Et c'est une initiative qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait, je me rappelle, il y a quelques, même au cours de la législature passée, nous avons été conviés à des initiatives de ce genre. Et je crois que là, on est en train de faire la relance. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'Église se trouve dans son rôle. L'Église, ce n'est pas seulement prêcher l'Évangile. L'Église, c'est aussi voir les conditions dans lesquelles vivent la population. Est-ce qu'il y a des soucis de manque de démocratie ? Est-ce qu'il y a des soucis de bonne gouvernance ? Et là, l'Église accompagne les élus. Et moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Pourquoi ? Parce que moi, je crois à la gouvernance participative. Nous avons été élus et la population, nous devons rendre compte à la population, la redevabilité. Et la gouvernance n'est pas la seule apanage de ceux qui dirigent. La gouvernance, c'est quelque chose de partagé. Ceux qui nous ont élus, ils ne doivent pas croiser les bras et dire, voilà, nous les avons élus, ils n'ont qu'à faire le reste. La population doit suivre nos actions. Et c'est important que l'Église ait pensé faciliter justement ce cadre d'échange entre les élus et la population locale. Raison pour laquelle je soutiens parfaitement l'initiative. Pourquoi ? Parce que je crois à la gouvernance participative. L'émergence du Congo, c'est à travers la gouvernance participative. Si on n'a pas intégré la gouvernance participative, on pourra organiser plusieurs élections. Et il y aura plusieurs alternances, mais il n'y aura véritablement pas de changement. Pourquoi ? Parce que la population, quelque part, ne se sera pas appropriée les processus démocratiques. Donc c'est aussi un signe d'une réelle appropriation du processus démocratique par la population et l'Église veut justement amener la population à s'approprier davantage les processus démocratiques.
Là, nous allons quand même émettre un point de vue sur la redevabilité qui doit vous animer, vous parlementaires, puisque vous venez de la base. Une fois élu, vous coupez le cordon ombilical avec la base. Vous parlez d'une gouvernance participative. Comment rendre tout cela effectif?
Oui, mais ça dépend de l'élu. Hein. L'élu ne doit pas couper le pont. Hein. Il doit toujours établir les liens avec la population qu'il a élue. Donc, il y a des tâches à faire par l'élu. Ça dépend du comportement de l'élu. Ça dépend aussi du comportement de la population, de la base. Hein. Alors, si l'élu crée une distance avec la base, et si la base pense que, voilà, ils ont été élus, c'est leur tour, nous croisons le bras, voyons ce qu'ils vont faire pour nous, eh bien, il n'y aura rien. Il faut qu'il y ait ce rapprochement-là. De part et d'autre. Alors l'Église, ici, se propose d'aller faciliter ces rapprochements. Et ça doit aussi être le rôle de, il n'y a pas que l'Église, mais aussi d'autres organisations de la société civile, de voir comment créer des cadres de dialogue entre les élus et la population. Parce que souvent, il se constate justement une distance et qui ne permet pas aux élus de suivre les actions des dirigeants ou qui ne permet pas à la population de suivre les actions des dirigeants.
Pourquoi le pouvoir de contrôle parlementaire s'affaiblit toujours? On ne sent pas des sanctions de tout le temps. Vous êtes au Parlement.
Il y a plusieurs facteurs qui font à ce que le pouvoir de contrôle des parlementaires s'amenuise. Il y a la corruption, il y a la méconnaissance même de son rôle, la sous-estimation de soi. Hein, il y a des députés, ils ont un grand pouvoir, mais ils ne réalisent pas que c'est... Et ils peuvent faire partir un membre du gouvernement, quoi. Ils se considèrent comme inférieurs. Il y a d'autres qui facilement cèdent à la corruption. En fait, c'est la somme de tout ça. C'est aussi un manque de personnalité qui fait à ce que, finalement, les pouvoirs de contrôle s'amenuisent. Et souvent, les gens n'arrivent pas à distinguer ce qui est intérêt de la population, intérêt supérieur de la population, et intérêt des familles politiques. Je crois qu'il faut concilier les deux. Hein. Ce n'est pas au nom de l'intérêt des partis politiques ou de sa famille politique. Il faut sacrifier les intérêts même de la population de ta circonscription. Hein. C'est ça le problème. Raison pour laquelle il nous faut des députés emprunts d'un niveau élevé de responsabilité qui savent faire la part des choses. Ok, je reste discipliné dans le cadre de mon parti politique, mais pour l'intérêt de la population, hein, eh bien, je me donne le devoir de sanctionner tel membre du gouvernement parce qu'il n'a pas bien géré. Mais lorsqu'on est faible, on cède à la corruption. Hein, on veut le gain facile ou on veut s'enrichir vite. C'est ce qui fait à ce qu'il y a des députés corrompus et des députés qui aliènent leur propre pouvoir, hein, alors qu'ils devraient agir, se soustraire eux-mêmes. Et là, c'est le gouvernement qui en profite, des mauvais gestionnaires en profitent parce qu'il n'y a pas de sanctions. Au cours de la législature passée, il y a eu plusieurs tentatives de contrôle parlementaire, mais il n'y a eu aucune sanction contre un membre du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des consignes, des mots d'ordre, la corruption. Tout ça, ça a affaibli l'action parlementaire. Raison pour laquelle nous voulons que cette action soit renforcée au cours de cette législature qui commence.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
La gouvernance participative, cas des travaux parlementaires, nous en parlons dans votre magazine de promotion de vos droits et devoirs. On écoute le point de vue d'une femme parlementaire, son rôle en tant que femme dans le cadre de la gouvernance participative.
Je suis honorable Nelly Mwinga Tulela, l'élu de la circonscription de Songololo dans le Congo central. Nous le savons, vous et moi, que d'abord le Parlement, c'est un espace de pouvoir, de réflexion et de prise de décision. Et quand nous parlons d'une femme, la femme est au centre de tout. Qui d'autre peut mieux parler, par exemple, du problème de la femme si ce n'est pas elle-même la femme? Donc la femme a un grand rôle à jouer parce que là, au centre de tout, c'est elle, la mère. Et quand la mère explique, je suis sûre que c'est tout le monde qui comprend. Et c'est tout le monde, elle capte tout le monde. Voilà pourquoi, au niveau du Parlement, nous devons avoir des femmes. et nous avons surtout besoin de la femme. Parce que là, on prend des décisions sur le social, sur l'instruction des enfants, sur, disons sur tous, pour ne citer que cela. Donc la femme doit jouer aussi son rôle là-bas, parce qu'elle a un mot à dire par rapport à la société, par rapport à ses enfants, par rapport à son mari et par rapport à tout.
Et comment s'exerce le pouvoir coercitif d'une parlementaire dans le cadre du renforcement de la démocratie et d'appui aux droits humains?
Je dirais d'abord, par rapport à ici, là où nous sommes venus aujourd'hui, je remercie d'abord l'initiative. Pourquoi ? Parce que là, il joue un rôle qui nous aide à comprendre aussi notre rôle. Pourquoi ? Parce que c'est chaque fois qu'ils doivent nous bouger pour savoir pourquoi nous sommes là. Il y a tout un peuple qui nous a donné sa confiance. Et en retour, je crois que nous devons faire aussi beaucoup de choses pour ce peuple-là. Je prends déjà l'exemple de mes électeurs de Songololo. Ils m'ont voté. Cette confiance, ils l'ont donnée à une femme qui est la seule femme députée dans le Congo central. Je suis sûre que nous avons un grand rôle à jouer. Et ici, nous devons chaque fois rentrer dans nos bases et c'est le BLP qui est là pour nous soutenir à chaque fois, pour nous donner des idées. On se donne des idées à chaque fois pour que nous puissions bien faire notre travail. Et c'est ce travail-là que nous devons faire chaque jour. Voilà, si je...
Exercez-vous bien votre sens de redevabilité?
Ça, je le sais, parce que si j'ai dit que j'ai beaucoup de choses à donner à mon peuple, oui. Pourquoi? Parce que le peuple là m'a donné de la confiance. Et cette confiance en retour, je dois voter des lois qui vont satisfaire mon peuple. Ce n'est pas que je dois voter des lois qui vont aller à l'encontre de ce que le peuple me demande. Donc je suis là pour le peuple, je dois défendre le peuple. Je dois travailler avec ce peuple pendant plus ou moins 5 ans. Voilà.
L'apport de Christian Aid, une organisation britannique au renforcement de la démocratie et au respect des droits humains, avec Madame Mouzili, directrice programme gouvernance.
Moi, je suis Madame Elisabeth Mouzili. Je suis directrice de programme gouvernance et transparente de Christian Aid. Christian Aid est un organisme international britannique et nous sommes implantés en RDC depuis plus de 20 ans. Et nous travaillons dans la gouvernance, dans les ressources humaines et aussi dans l'humanitaire et la résilience.
Quel est l'apport de votre organisation dans le renforcement de la démocratie et l'appui aux droits humains en RDC?
Dans le renforcement de la démocratie et appui aux droits humains, particulièrement, nous travaillons dans la gouvernance participative. Christian Aid travaille particulièrement avec les organisations de la société civile et dans notre système de travail, nous travaillons plus avec les partenaires. Et nos partenaires, ce sont les organisations de la société civile qui sont du point de vue local, provincial ou national. Et avec eux, ce que nous sommes en train de vouloir, c'est créer une collaboration entre les gouvernants et les gouvernés au travers de plusieurs actions comme les actions des plaidoyers, les tribunes d'expression populaire. Mais nous visons véritablement à ce que les lois, les édits ou tous les actes réglementaires qui sont pris tiennent compte réellement des besoins réels des populations. Parce que quand les besoins réels des populations remontent vers les décideurs au travers des cahiers des charges, ils sont en même de pouvoir répondre par soit les édits, les décisions ou les arrêtés en faveur de ces populations. Et nous sommes sûrs que par ce processus-là, les décisions qui sont prises répondent réellement aux besoins des populations. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire et nous suivons aussi la formulation et des politiques publiques et leur mise en œuvre. Nous avons beaucoup de lois qui existent. Est-ce que nous avons des mesures d'application? Et si ces mesures d'application n'existent pas, quelles sont les actions que les organisations de la société civile peuvent faire pour que les mesures d'application existent? Et là où les mesures d'application existent, comment est-ce qu'elles peuvent être mises en action? Voilà.
Quelle appréciation avez-vous de la démocratie en RDC?
La démocratie en RDC, pour moi, c'est un grand espoir. Quand j'ai dit c'est un grand espoir, parce que je vois un peu l'espace politique en train de s'ouvrir. Je vois le peuple congolais en train d'avoir cette culture politique qu'il n'avait pas ou qui était caché, mais aujourd'hui qui est suscité. Je vois ce contrôle citoyen qui s'élève des parts et d'autres et je vois surtout la volonté des gouvernants de pouvoir faciliter la vie de la population, pour moi déjà ça c'est un espoir.
Est-ce que le travail parlementaire contribue-t-il au renforcement de cette démocratie, tel que vous voyez ça de l'extérieur?
Bon, je ne sais pas d'emblée vous dire si ça contribue ou ça ne contribue pas, parce que c'est un processus. Un processus qui commence, je voudrais qu'on puisse donner la chance à la nouvelle.
Le processus a commencé depuis 1990.
Oui, il a commencé depuis 1990, comme vous l'avez dit, mais il y a des aléas qui doivent être remplis pour permettre à la population de pouvoir participer. La participation citoyenne, c'est un droit, c'est une obligation pour les citoyens. On ne doit pas mettre des barrières. Et quand les barrières existent, il y a manque de collaboration. Et nous sommes en train de dire un espoir et ça commence à exister parce qu'il y a ces débuts de collaboration qui commencent à se faire voir.
Les caractéristiques et acquis de la démocratie en RDC avec Maître Jean-Paul Mouliangwa, directeur du bureau de liaison de la CINCO avec le Parlement, avant de conclure notre émission.
Tout le monde est d'accord qu'il y a encore du chemin à faire, à parcourir. Et là, on n'est pas là pour condamner.
On ne vous demande pas de condamner.
Nous sommes là, on trouve qu'ensemble, si on se met ensemble résolument, on peut faire des avancées dans ce domaine pour notre pays.
Quelle évaluation faites-vous de l'application de toutes les lois qui ont été votées lors de la législature précédente afin d'en tirer des leçons pour qu'il n'y ait plus de lois qui souffrent de souffrances?
En ce qui concerne l'application des lois, il y a aussi du chemin à faire. Donc c'est pour cela que nous sommes ensemble ici. Sinon, si c'était bien dans ce secteur-là, je crois qu'on ne se serait pas peut-être retrouvé pour lancer ces projets. Donc il y a encore à faire, mais on s'est dit, il ne faut pas jeter la pierre sur les uns. Alors voilà, on se met ensemble pour travailler à la réalisation de ces grands buts, qui est d'obtenir des lois justes qui s'appliquent équitablement pour tout le monde et pour les biens de la nation congolaise.
Actuellement, en RDC, quels sont les acquis de la démocratie?
Bon, les acquis, nous avons quand même eu droit à une alternance qui n'était pas vraiment, bon, peut-être ce n'était pas ce que tout le monde attendait, mais il y a eu quand même alternance. Et au niveau du sommet du président de la République, nous avons eu une nouvelle législature avec des députés nationaux, provinciaux. Bon, il y a à redire sur la façon dont certains s'acquittent de leurs prérogatives constitutionnelles, donc voilà. Mais il y a déjà ces changements, je pense qu'il faut capitaliser donc les pratiques pour une nouvelle orientation. Par exemple, maintenant, se plaindre de la corruption des grands électeurs au niveau des provinces. Mais c'est mal se plaindre, faire la casse, ça ne résout rien. Il faut voir comment est-ce qu'on peut résoudre ça. Là, la justice, oui, fait son travail, mais aussi c'est question d'éducation aussi. L'éducation, voilà, le civisme. Je crois qu'il faut aussi appuyer sur ces leviers-là.
Il y a encore du chemin à parcourir. Votre dernier mot, en guise de conclusion.
En guise de conclusion, c'est de demander à nos compatriotes de ne pas se dire non, laisse la politique aux politiciens. Non, on doit s'intéresser à la gestion de la chose publique dans son entité. Décentraliser province, pays et s'engager pour que les choses puissent évoluer positivement, pour puissent avancer conformément aux desiderata des populations. Et il ne faut pas démissionner de ces rôles-là. Parce que même ceux qui nous gouvernent, quand ils sentent une détermination de la population pour la défense de ses droits, généralement, ils s'alignent aussi conformément à ça. Mais s'ils sentent que bon, les gens bon, sont
désintéressés
ou s'en remettent à la providence divine, bon, ces choses ne vont pas avancer. Donc c'est nous-mêmes qui vont faire bouger les choses. Comme on dit, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Nous, on ne pourra pas se sauver, donc sans parvenir au développement sans notre propre implication. Sinon, on va nous apporter un développement qui n'est pas celui qu'on attend. C'est le développement des autres. Mais pour un développement qui est conforme à nos attentes, il faut mieux que nous impliquions nous-mêmes. Merci.
Ainsi s'achève Droit et citoyenneté d'aujourd'hui qui s'est penché sur la problématique de la gouvernance participative, intervention directe des citoyens dans le champ des décisions politiques ou parlementaires. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sur la fréquence de la paix.